Bonjour, je vous propose de commencer par une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. C'est une parole qui va faire suite un peu à ce qui était là ce matin, à ce que nous avons entendu. Luc, chapitre 17, au verset 22, nous allons lire jusqu'au verset 37. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même jour, de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera ce Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps ? Là s'assembleront les vautours. » Amen. Ce passage nous parle de la venue de Jésus, de la seconde venue de Jésus. C'est un passage qui nous parle aussi du fait que le Seigneur Jésus y va revenir. Alors certes, vous pourriez me dire, ça fait 2000 ans qu'on dit, que Jésus va revenir, et il ne se passe rien. D'ailleurs, l'apôtre Pierre en parle dans son épître, on ne va pas le lire, mais il en parle aussi en disant que voilà, il y aura des temps où, même quand on évoque ceci, les gens commencent à rire, entre guillemets, à tourner en ridicule ces choses-là, parce qu'effectivement, ça fait 2000 ans qu'on le dit, et ce n'est pas arrivé. Et pourtant, on voit quelques signes. Et là, Luc nous présente deux signes. Ça sort bien sûr de la bouche de Jésus. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu parce que sur les signes que Jésus nous montre, il y a des choses qui nous indiquent que le temps est vraiment proche. Et j'aimerais cet après-midi que, pour toi qui n'as peut-être pas fait la paix avec Dieu, que tu puisses considérer que cet avertissement, c'est un acte de bonté de Dieu. Si le Seigneur nous avertit, si le Seigneur nous dit qu'il va revenir, si le Seigneur nous dit qu'il nous faut faire la paix avec lui de toute urgence, c'est bien parce qu'il nous aime. C'est pas pour nous enfoncer, c'est au contraire, il nous appelle. Il nous appelle, il nous appelle encore et encore à nous approcher de lui et à faire la paix avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu nous veut auprès de lui. C'est tout ce qu'il désire pour nous. Dieu désire nous éviter la mort éternelle. Et l'appel de Dieu se refait régulièrement. Et il en arrive à ce que jusqu'à Dieu puisse crier dans certaines vies. Parce qu'il nous appelle tellement il nous veut à lui. Il veut que nous entendions. Alors que cet après-midi, nos oreilles soient ouvertes. Il nous est dit, dans le passage que nous avons lu, verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Je vous poserai une question, est-ce qu'il y a du mal à manger ? Non. Est-ce qu'il y a du mal à boire ? Non. Est-ce que c'est mal de se marier ? Absolument pas, parce que la Bible nous dit qu'il nous faut nous marier et que le lien de la famille qui est béni par Dieu, c'est celui qui est fait dans le cadre des liens du mariage. Seulement, ce passage nous fait référence à quelque chose de très particulier. Si vous prenez dans le livre de la Genèse, au verset 6, le mariage dont il est question ici, c'est un mariage qui est grave. Genèse chapitre 6, verset 2, ça précède le déluge. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Nous avons là un mariage assez particulier qui va entraîner l'homme dans une situation où il va vouloir se faire l'égal de Dieu par ce genre d'union. La Bible nous dit, au verset 4, que les esprits célestes ont pris des femmes humaines et il en a résulté des géants. Ces géants qui étaient là, au milieu de nous, et certains étaient même des héros qui étaient célébrés, qui étaient peut-être même adorés. Ces géants-là parcouraient la terre et l'homme se mariait. Que recherchait l'homme à ce moment-là? Il recherchait à marier leur fille de manière à ce que ces choses-là continuent. Or, le problème, c'est que ces fils de Dieu ont voulu prendre des femmes pour aussi, au niveau de leur existence sur terre, faire toujours plus le mal et se faire Dieu. Et les hommes aussi, dans cette union-là, ont vu un moyen de se faire l'égal aussi de Dieu. Et ça, Dieu ne peut pas le permettre. Et c'est la raison pour laquelle le déluge est arrivé. À un moment donné, l'homme veut tellement aller haut, l'homme veut tellement se faire l'égal de Dieu, qu'à un moment donné, Dieu intervient. Ce n'est pas possible. L'homme, ce n'est pas Dieu. L'homme ne peut pas se faire l'égal de Dieu. Et le déluge est arrivé et a englobé toute la terre. Seulement, Luc ne s'arrête pas là et nous donne un deuxième exemple. Et ce deuxième exemple, il est encore plus frappant parce qu'il nous parle vraiment, et je vais insister sur ce point, de l'époque dans laquelle nous vivons. Ça semble anodin, mais on voit que la liste qui est donnée pour ce deuxième exemple est un peu plus longue. Regardez avec moi. Verset 28, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » Nous avons déjà une différence majeure entre ces deux jugements de Dieu, c'est que le déluge est arrivé sur toute la terre et le jugement de Dieu par le feu n'est arrivé que sur Sodome. Entre guillemets, la suite est à venir parce que la terre sera jugée de la même manière. La Bible dit que les cieux et la terre ne passeront pas, mais mes paroles, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La terre sera entièrement détruite par le feu. Alors qu'est-ce que nous avons dans cette liste ? Manger, boire, d'accord. On voit que le mariage n'y est plus. Le mariage n'y est plus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mariage, c'est quelque chose que Dieu aime, que Dieu veut. On voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le mariage, ça devient quelque chose d'accessoire. C'est triste. Mais le mariage est vraiment quelque chose d'accessoire. Par contre, je lis que les hommes achetaient et vendaient. Voilà deux termes qui définissent pleinement la société d'aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas que ces deux termes-là nous parlent bien de notre société, la société de consommation. J'ai même pas besoin de le dire, vous l'avez deviné. La société de consommation. J'achète, je vends, j'achète, je vends. J'achète et j'essaie de vendre plus cher que je n'ai acheté pour me faire de l'argent. C'est ça la société d'aujourd'hui. Et Luc nous prend la peine, Jésus prend la peine de préciser ces choses alors qu'il ne les a pas données avant. Parce que ces termes-là nous présentent la société d'aujourd'hui. Écoutez ce que j'ai simplement cherché, parce que je me suis dit, tiens, société de consommation, on connaît tellement ce terme qu'on pense que ça veut dire. Je suis allé sur l'encyclopédie Wikipédia. Écoutez ce que j'ai trouvé. Répandu surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, le concept de société de consommation renvoie à l'idée d'un ordre économique et social fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir de profiter de biens de consommation et de services dans des proportions toujours plus importantes. Le marketing, la publicité sont des techniques utilisées par les cadres d'entreprise pour pousser leur clientèle à acheter au-delà de leurs besoins, tandis que les biens sont conçus pour avoir une courte durée de vie, de sorte à renouveler régulièrement la production. Voilà la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Les hommes achetaient, vendaient. C'est une société complètement égocentrique, qui ne pense qu'au bien-être de l'instant. Je vois une publicité sur le dernier smartphone sorti, Alors je vais courir à la boutique me l'acheter parce que j'ai pas la dernière version. Ça fait peut-être sourire, mais moi j'ai des collègues, c'est comme ça qu'ils vivent. Le moindre truc qui passe sous leurs yeux, ils foncent dessus. N'êtes-vous pas fatigué de voir autant de publicité partout ? La publicité, c'est ce qui attire nos yeux. Tiens, tiens, n'est-ce pas une méthode déjà connue d'attirer nos yeux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous connaissez Genèse 3 ? Le diable a fait de la pub. Le diable a fait de la pub à Ève. N'as-tu pas vu dans cet arbre ? N'as-tu pas vu ? Dieu a-t-il réellement dit ? Ève a vu que le fruit était beau au regard. Et elle s'est, entre guillemets, faite avoir par cette publicité mensongère. C'est une image. On voit que ces choses nous amènent dans un travers que l'homme a, qui est le péché. Cette société-là, où on achète et où on vend, nous amène inexorablement vers le péché. Parce que on est pris dans une société où les yeux, les sens prennent toute l'importance et on fonce acheter, on fonce faire vers des choses qui vont essayer de nous donner un certain plaisir, mais qui ne vaut rien. Aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous pour voir que qui est-ce qui dirige les nations aujourd'hui ? Est-ce que les États sont souverains ? Non plus. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les États sont tous à la baguette des banques. Les États sont tous à la baguette du marché. Cette société où on achète et où on vend. Ensuite, on a d'autres termes. Les gens plantaient, bâtissaient. On a une époque où on essaye de nous faire prendre conscience que notre planète n'est pas éternelle. Alors il faut qu'on la sauve. C'est beau comme discours. Sauvons la planète. Est-ce que l'homme a vraiment le pouvoir de sauver la planète ? J'en suis pas certain. On voit l'homme aussi de nos jours qui se lance dans une frénésie de construction. Ne voyez-vous pas les gratte-ciels qui poussent les uns après les autres ? De partout. Même à Toulouse, ça va venir. C'est des choses qui sont là et on fait des bâtiments HQE, comme on dit, pour préserver l'environnement à haute qualité environnementale. Parce que il faut qu'on pense à notre planète. On va construire, mais on pense à notre planète, à notre environnement. Et l'homme est en train de faire porter une responsabilité de l'état de la planète sur lui-même, parce qu'il veut prendre en main la planète. Mais est-ce que l'homme a les épaules pour sauver la planète ? Pourquoi est-ce comme ça ? Parce que l'homme se prend pour Dieu. L'homme croit qu'il est possible. L'homme croit qu'il lui est possible de faire tout. L'homme essaye sans arrêt de dépasser ses limites. L'homme a refusé Dieu. Donc forcément, la responsabilité qui incombe à Dieu, l'homme essaye de la porter. Mais ça va pas marcher. Pour vous dire à quel point l'homme essaye de repousser ses limites, des grandes firmes comme Google essayent à ce jour de percer le secret de la mortalité. Ils essayent de découvrir pourquoi la mort existe. Et ils font des études poussées pour que on puisse un jour avoir la vie éternelle. C'est les études dans lesquelles l'homme est rendu aujourd'hui. L'homme essaye de se faire Dieu. On n'imagine pas à travers cette simple petite liste à quel point il y a une précision d'orfèvre dans ce que nous dit la Bible. Parce que ce que décrit Luc à ce moment-là, ce n'est ni plus ni moins que la société d'aujourd'hui. Et quand on lit la suite, on voit que le jugement est tombé sur Sodome. Et le jugement tombera sur nous pareillement. Le Seigneur Jésus revient et le jugement est là. Je parlais de Ève tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui est très important parce que le fait de succomber dans cette société-là, de vivre dans cette société-là, ça nous montre que le péché est omniprésent parmi nous. Nous sommes dans le péché. Nous sommes de notre nature même pris dans le péché. Nous sommes à la naissance pris dans le péché parce que, à un moment donné, on a tous, par nos sens, commis quelque chose qui déplaisait à Dieu. On est tous nés dans le péché. À ce jour, rien n'a changé. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Personne ne peut voir la gloire de Dieu. L'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 6, au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit juste avant que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que l'homme a été dépouillé de la gloire qui était la sienne. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme à son image. Il a fait l'homme de manière à ce qu'il soit éternel, à cette dimension d'avoir un esprit en pleine communion avec lui. Le jour où il y a eu le péché, l'homme a perdu cette nature divine. Et tous les hommes et les femmes qui sont nés après sont nés sans cette nature divine. Et comme on n'a pas cette nature divine, on ne peut pas être auprès de Dieu. Pour pouvoir retrouver cette nature divine, il nous faut croire que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous permettre de la récupérer. La Bible nous dit que le jugement de Dieu vient très bientôt. Le feu du ciel descendra sur la terre. Est-ce que nous faisons partie de ceux qui seront épargnés, comme Lot a été épargné avec sa famille, ou est-ce que nous ferons partie de ceux qui vont souffrir à travers ce jugement? Qu'a fait Jésus? Dans Hébreux, chapitre 9, versets 27 et 28, il est écrit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Ceux qui ont fait la paix avec Dieu, ils attendent cette venue de Dieu, de Jésus. Mais nous l'attendons avec impatience. Nous avons hâte à ce qu'il revienne, parce que nous savons que nous irons vers lui. Maintenant, je vais vous lire une partie du chapitre 3 de l'épître de Paul aux Romains dans la version Parole vivante. Donc ça ne va pas tout à fait correspondre à votre texte, mais ça aide à vraiment bien comprendre. Mais maintenant, nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélée une manière d'être juste, indépendamment des œuvres légales, les œuvres de la loi. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. C'est par grâce que nous sommes sauvés, parce que Jésus est mort pour nous. Les écrits de l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes, ont bien parlé de cette manière d'être juste. Mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ. Et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Autrement dit, pour être sauvé, il nous faut simplement croire que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes à notre place sur le bois de la croix. Jésus a souffert, son sang a coulé, il était sans péché, il est mort à notre place. Il est mort pour nous. Nous n'avons rien d'autre à faire que de croire que c'est vrai et que de croire que c'est suffisant pour que nous puissions être sauvés. Par la foi que je vais avoir dans ce que Jésus a fait, je vais pouvoir être épargné de ce jugement qui arrive très prochainement sur cette terre. Je continue. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur était assigné selon son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent, à présent, être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, comme nous l'avons chanté, que nous pouvons être sauvés, parce que seul Jésus a accompli ce qui était nécessaire. Jésus a dit sur la croix que tout était accompli. Pourquoi cherchons-nous à vouloir en rajouter? Il n'y a rien à rajouter. Jésus a tout fait à la croix. Et nous pouvons échapper à ce jugement éternel simplement en croyant que Jésus a tout accompli sur la croix du calvaire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il nous faut croire. Nous ne sommes pas enfants de Dieu, parce que ce texte que je viens de lire nous dit qu'on le devient par la foi. Donc, de naissance, nous ne le sommes plus. Il nous faut croire ces choses. Il nous faut croire que Jésus est vraiment mort à la croix pour nous. Nous n'avons pas cherché midi à 14 heures, nous n'avons pas essayé de faire telle ou telle chose. Je ne sais. simplement que Jésus a tout fait. Prenez avec moi le chapitre 21 de Luc, on va tourner quelques pages, et on va voir là l'assurance que l'enfant de Dieu peut avoir dans ces moments. Les versets 11 et 12 nous disent « Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. » Il y a certains pays où les chrétiens sont persécutés aujourd'hui. Les tremblements de terre, je ne sais pas s'il faut en parler, parce que pas plus tard que cette semaine, il y en a eu un. La peste et les famines, dans tous ces pays sous-développés, elle est omniprésente. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, et c'est là où on a l'espérance du chrétien, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Oui, ces choses sont là. Oui, c'est des choses qui sont tristes. Oui, on voit que le monde est dans une décadence. Nous vivons ces choses et nous sommes tristes quelque part de les vivre. Mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes à la fois dans cette grande espérance de savoir que le retour du Seigneur, il est proche, il est très proche. Il revient très bientôt. Et moi qui ai fait la paix avec Dieu, je l'attends avec une grande impatience. On en parlait encore à midi. Je peux vous garantir que, pour ma part, j'attends son retour avec une grande impatience. Seigneur Jésus revient bientôt. Mais celui ou celle qui n'a pas fait la paix avec lui n'a pas cette espérance. Si je continue, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le jugement par le feu, il a commencé sur une ville de Sodome. Mais un jour, ce sera toute la terre qui va y passer. Le jugement qui a eu lieu sur Sodome est une préfiguration de ce qui attend encore l'humanité. Parce que nous avons cette description-là, que j'ai présentée rapidement, qui nous montre à quel point nous sommes rendus au moment. Le retour du Seigneur Jésus n'a jamais été aussi proche. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à son retour ? Est-ce que tu l'attends ? Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes ou est-ce que c'est quelque chose que tu attends avec impatience? Le Seigneur Jésus revient. Il faut le réaliser. Ce que nous dit la Bible, on n'y pensait pas, mais les gens achetaient, vendaient. Est-ce qu'on avait imaginé à quel point notre société d'aujourd'hui serait basée là-dessus? Et pourtant, dans cette liste, ces mots, ils y sont. On y est là. Le Seigneur, il revient très prochainement. L'apôtre écrit aux Romains, chapitre 8, verset 23. Là encore, je lis dans une autre version. « Ils ne sont pas les seuls. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes. Et nous vivons dans une certaine tension, car nous avons seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte. » Il parle des chrétiens qui ont fait la paix avec Dieu. « Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi, attendons-nous avec patience d'être établi de plein droit fils adoptif de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre corps. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance, la rédemption. Le fait que le Seigneur Jésus revienne, c'est l'objet de notre espérance. Alors forcément, quand on approche du moment, notre espérance est d'autant plus forte. Mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir. En effet, ce que je vois réaliser, ai-je encore besoin de l'espérer? Espérer, c'est se porter vers l'invisible. C'est une promesse que Dieu nous a faite, qu'on attend avec impatience, mais auquel on croit. Ce que Dieu dit, nous le croyons. Et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance, malgré tout ce qui se passe. Malgré toute l'immoralité que nous voyons autour de nous, nous qui sommes chrétiens, au lieu de regarder par terre, on regarde encore plus vers le ciel, Parce que nous savons que Jésus revient, il est en marche, il arrive. Nous sommes sauvés, nous attendons ces choses. Je repose cette question, est-ce que tu es dans ce même état-là? Est-ce que tu es dans ce même état d'esprit? Est-ce que Jésus, tu l'attends? Ou est-ce que tu le redoutes? Est-ce que le retour de Christ, tu l'attends ou pas? Ou est-ce que tu voudrais qu'il revienne, mais pas tout de suite, parce que t'es pas prêt? Il faut être prêt, même sans penser à son retour. Qui sait si, en sortant de ce lieu, votre âme ne sera pas redemandée? Il peut nous arriver à tous de perdre la vie dans des circonstances ou dans d'autres. Est-ce que, si votre vie venait à vous être enlevée là maintenant, est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Oui, le Seigneur Jésus revient bientôt. Mais c'est à tout moment qu'il faut être prêt. Aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Sauveur? Est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Dans Amos, au chapitre 4 et au verset 12, il est dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ce n'est pas quelque chose qu'on dit aux gens en fin de vie. C'est quelque chose qui est vrai pour nous tous. Aujourd'hui, là, maintenant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que ma vie ne m'appartient pas. J'aime dire qu'on est en location dans notre corps. Le corps, il va rester là. Notre âme, elle ira soit en enfer, soit auprès de Dieu. Mais le sort de notre âme est tellement plus important que celui de notre corps. Pour résumer sur l'état d'esprit du chrétien, prenez avec moi le psaume 131. Et c'est vraiment quelque chose que nous devons vivre. Pour nous, peut-être, qui sommes chrétiens et des fois avons du mal à marcher ou sommes découragés devant toutes ces choses qui se passent, il faut vraiment que nous ayons aussi ce regard de foi. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Cantique des degrés de David, éternel. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Est-ce que vous avez l'âme calme et tranquille? Je vous propose de courber nos têtes quelques instants. C'est un thème que j'avais à cœur, et quand j'en parlais au pasteur ce matin, qui se rapprochait de ce qu'il avait apporté ce matin, je me rends compte à quel point l'Esprit veut que nous fassions attention à ses paroles. Comme il nous a été dit ce matin, que ce ne soit pas une fois de plus, mais que nos oreilles soient ouvertes. Parce que le Seigneur Jésus, il revient. Et même là, cet après-midi, le Seigneur veut que là, maintenant, tu puisses lui appartenir. Seulement, c'est une décision qui ne prendra pas ta place. La décision de le suivre, la décision de croire que Jésus-Christ a tout accompli à la croix du calvaire, et la décision d'y croire tout simplement, elle t'appartient. Le Seigneur Jésus te demande simplement une chose. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Repens-toi et viens à la croix, parce que le Seigneur Jésus, il t'attend les bras ouverts. Dieu, il t'attend les bras ouverts. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu puisses pouvoir dire que toi aussi, tu seras épargné par le jugement qui arrive. Est-ce que tu veux faire ce point avec Dieu ?